Je vous propose ce matin de vous poser une petite question pour commencer. Si on devait résumer l'année 2020 en une phrase, je ne sais pas à quel type de phrase vous penseriez, mais en réfléchissant à ce message, je me suis dit, si on devait résumer cette année 2020 en une phrase, bah, ça serait peut-être une des phrases de notre président. Au tout début du confinement, c'est nous sommes en guerre. Je ne sais pas si vous avez suivi ce discours, il y a bientôt 3 mois, qui lançait le confinement. Et que l'on soit pro-Macron, pas pro-Macron, pro-politique, pas pro-politique, peu importe, beaucoup de Français ont écouté ce discours avec beaucoup d'intérêt. Et en écoutant ce discours, je me suis dit, mais c'est impressionnant, il y a une personne qui parle dans son bureau à l'Élysée à Paris, et de ce qu'il va dire va découler des conséquences multiples. Et je me suis dit, lorsqu'il parlait, je me dis, mais quel est le degré de confiance que l'on a dans ce président, dans ce qu'il va dire? Parce que de ce degré de confiance va aboutir un petit peu notre volonté d'obéissance. Et cette volonté d'obéissance va amener de la persévérance ou pas à toutes les mesures qui vont être prises. Et cette confiance dans les autorités, elle se retrouve aussi, bien sûr, dans la Bible. Quelle est l'autorité de ma vie? Et la confiance que l'on a dans la parole de Dieu va entraîner aussi une obéissance et également une persévérance. Et je vous propose ce matin de prendre un texte qui va un petit peu dans ce sens, dans l'évangile de Jean. On va prendre 8 versets dans Jean au chapitre 15. Donc, Jean, et on va prendre les 8 premiers versets. Et j'aurai donc 3 points, vous l'avez compris, confiance, obéissance et persévérance. Pendant que vous prenez ce passage dans Jean 15, un petit rappel du contexte. C'est la phase où Jésus est en train de, entre guillemets, terminer la première phase de préparation de ses disciples. Ce sont les dernières heures de Jésus-Christ avant sa mort. L'étau se resserre, le stress s'intensifie et il va se préparer à la solitude. Il va être abandonné de tout le monde, même de son Père, sur la croix. Pourtant, il vient de faire une entrée triomphale à Jérusalem. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a annoncé la venue du Saint-Esprit, la promesse de la paix. Et il est en chemin pour le jardin où il sera arrêté. Et il donne véritablement ses dernières instructions à ses disciples. Donc, je vous propose de lire Jean 15 et on va le faire de manière un petit peu saccadée. On va lire le verset 1 et le début du verset 5. Donc Jean 15, verset 1 et le début du verset 5. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Premier point, la confiance. Cette image du cep, de la vigne, du sarment, du vigneron, elle est connue, voire très connue, mais ça ne change rien au fait que l'on peut connaître sans croire et on peut connaître sans appliquer. Donc, je vous propose vraiment pendant quelques minutes qu'on puisse se concentrer pour lire, comprendre, croire et appliquer. La confiance. Jésus parle et déclare « Je suis le vrai cep. » C'est la septième et la dernière fois que Jésus proclame sa divinité dans l'évangile de Jean en déclarant un « Je suis ». Cette parole, si elle est fausse, elle fait partie sans doute du plus grand orgueil de tous les temps. Mais comme c'est Jésus qui la proclame, elle est vraie et elle est puissante. En disant « Je suis le vrai cep », Jésus nous montre à quel point il est véritable, il est unique et il est la vérité. Il nous rappelle aussi d'où vient son autorité. « Mon Père est le vigneron. » Ce binôme père-fils, vigneron-cep, c'est véritablement un binôme parfait, une filiation concrète. Et déjà dans les versets précédents, ce chapitre 15, Jésus s'attache à dire, à rappeler son obéissance à son Père. Le vigneron obtient le prix de la qualité du vin. C'est lui le maître des lieux, le propriétaire absolu. Il y a quelques mois d'aujourd'hui, il y a une bouteille de vin qui a été vendue et ça a battu tous les records. Elle a été vendue 500 000 euros, la bouteille. C'est considéré comme le meilleur vin de tous les temps. Alors désolé François, c'est absolument pas un vin de Toulouse ou de sa région, mais c'est un vin qui vaut très cher. Et bien évidemment, on n'est pas allé donner le prix au raisin, mais on a donné le prix au vigneron, au responsable du domaine. Jésus nous rappelle ici d'où il vient, qui il est et à qui il veut obéir et en qui il a confiance. Quel exemple! Jésus parle, Dieu est son autorité et nous restons la créature. Au début du verset 5, on peut lire « Vous êtes les sarments ». Jésus nous rappelle notre humanité, notre impuissance, notre fragilité, notre futilité, si nous ne sommes pas attachés ou greffés à lui. Nous pouvons avoir une part de son héritage grâce à son sacrifice et son obéissance complète à son Père. Et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure dans une prière. Bilan de ce premier point sur notre degré de confiance dans la parole de Dieu. À qui ou à quoi sommes-nous greffés? Il y a un ordre établi, une place pour chacun dans l'histoire de l'humanité. Mais si on ne puise pas notre force, notre source dans le vrai cep, ça veut dire qu'on puise notre force, notre source dans un faux cep. Quel est le faux cep ou quels sont les faux ceps dans ta vie? En qui, en quoi places-tu ta confiance? Un très bon livre de Timothée Keller qui s'appelle « Les idoles du cœur » peut nous permettre de revoir un petit peu quelles sont ces idoles dans notre vie. Il y a les idoles visibles qu'on peut voir assez rapidement, mais il y a aussi les idoles invisibles qui sont beaucoup plus ancrées au fond de nous et qui nous empêchent de prendre notre source, de nous ressourcer et d'être vraiment greffés au vrai cep qui est Jésus-Christ. À quel point faisons-nous confiance dans les paroles de Jésus? Il y a deux soirs, ou trois soirs à peu près, on a regardé un très beau film de Disney qui s'appelle Togo, sur l'histoire d'un chien qui s'appelle Togo. Et cette histoire nous rappelle un événement historique qui s'est déroulé il y a à peu près un siècle, en Alaska, aux États-Unis. Il y avait une épidémie et il fallait aller chercher des vaccins dans une ville qui se situait assez loin. En Alaska, c'était la tempête, c'était l'hiver, température de moins 60. Et le seul moyen de transport pour atteindre cette ville, c'était les chiens de traîneau, avec des mushers, ceux qui conduisent les chiens de traîneau. Et le meilleur musher de l'époque, il avait un chien leader qu'il appelait Togo. Et à un moment donné, dans la tempête, il y avait tellement de vent, des températures à moins 60 à peu près, ressenti, que le musher, il a arrêté le traîneau. Il a couru dans la tempête vers son chien leader, Togo, et lui a dit « Écoute Togo, j'arrive plus à voir et j'ai besoin que tu m'emmènes au prochain refuge. » Et il est remonté, donc le musher, sur son traîneau et le chien Togo l'a emmené au prochain refuge. Est-ce qu'on accepte nous aussi des fois de ne pas voir ce qui se passe dans nos vies, de mal voir et de faire confiance au chien de tête ou au cep qui est Jésus? Donc ce premier aspect de la confiance va forcément entraîner plus ou moins d'obéissance. On va lire les versets 2 à 6. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. dans cette deuxième partie sur l'obéissance, on voit tout d'abord que Jésus agit. Au verset 2, tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire qui est greffé en Jésus. On peut reprendre l'image de la sève qui traverse le cep et qui va jusque dans les sarments. Et cette sève, souvent, les commentateurs aiment dire, et je pense vraiment que c'est la vérité, c'est la réalité, que cette sève, c'est toutes les paroles que l'on a dans la Bible, l'enseignement, le Saint-Esprit, qui va nous marquer, qui va nous encourager, qui va nous enseigner et qui coule aussi dans nos vies. Au verset 3, Jésus nous rappelle « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » On est déjà purs, pas parce qu'on a fait, parce qu'on pourrait faire, mais parce que Christ a fait, comme ça a été rappelé tout à l'heure aussi dans une prière. Au verset 4, et c'est véritablement la priorité absolue pour ce matin, c'est un ordre que Jésus donne. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ça, c'est la priorité absolue pour nos vies. Rester attaché, vivre avec, vivre pour, vivre en et puiser sa force en Christ. Pourquoi ? Ben, il nous donne la réponse au verset 6. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre place, notre vie doit être dépendante à 1000% de Jésus. Une des phrases qui m'a le plus marqué parmi les chrétiens persécutés, c'était un chrétien persécuté en Afrique subsaharienne qui m'avait dit « La différence entre vous en Occident et nous, chrétiens persécutés, c'est le fait que nous, chrétiens persécutés, on dépend à 100% de Dieu. Dans tout ce qu'on fait, dans notre quotidien, on demande l'aide de Dieu. Alors que vous en Occident, vous vous posez rarement la question « Mais qu'est-ce que je vais manger ce midi ? Qu'est-ce que je vais amener pour mes enfants, etc. ?» Et cette dépendance à Dieu, elle se retrouve dans cette image du cep et du sarment. Donc la question que je pose aujourd'hui, ce matin, c'est à quel point sommes-nous dépendants et obéissants vis-à-vis de Dieu et des paroles de Jésus ? Jésus agit. Et au final, c'est Dieu qui décide. On l'a vu tout à l'heure, le parfait vigneron. Et que nous dit ce texte ? Il nous dit des choses assez fortes, assez sévères, entre guillemets. Mais cette sévérité est juste. Il est dit dans ces versets que Dieu va retrancher le mauvais sarment. Pourquoi ? Parce qu'il gêne les autres branches dans leur croissance et ce mauvais sarment finira brûlé. Ce mauvais sarment fait référence aux faux chrétiens, à ceux qui ne sont pas attachés au vrai cep, qui ne marchent pas dans la lumière, qui ne vivent pas la sanctification, c'est-à-dire la progression avec Dieu, et qui ne porte pas de fruits. La question surtout, c'est comment est-ce qu'on définit la repentance ? Pourquoi ? Parce que si on se repent totalement, bibliquement, véritablement, c'est une preuve comme quoi on est vraiment rattaché au cep. Si on s'attache juste au remords, « Ah mince, j'ai été pris sur ce péché-là », c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a les sarments, les mauvais sarments que Dieu va retrancher. Et il y a les bons sarments que Dieu va émonder ou va tailler, selon certaines versions. Tailler, émonder, ça permet de mieux pousser. La volonté de Dieu pour nous, les bons sarments, est de porter encore plus de fruits. La progression est infinie. La qualité du vin qui va en résulter est infinie. Rien n'est statique dans la vie chrétienne ou figé. La vie est une course, et quand vous avez un jardin, vous savez que si vous laissez votre jardin quelque temps, les mauvaises herbes vont venir et peuvent tout détruire. Dieu prend soin de sa vigne, il est attentif, il passe du temps, il l'aime, et nous voit greffé à son fils. Il nous voit greffé à son fils. Et si on est un faux chrétien, si on prend de la colle pour coller un sarment, Dieu n'aura pas de pitié. Et il n'y a pas de troisième type de sarment. Il n'y a que deux types de sarments, les mauvais et les bons. Un petit bilan sur ce deuxième point, sur l'obéissance. Nous avons notre responsabilité. À l'heure, je crois que c'est Jérémie qui priait tout à l'heure où on cherche un petit peu notre propre justice, où on fuit nos responsabilités, Dieu nous rappelle par cet ordre, demeurez en moi et je demeurerai en vous. eh bien, on a la responsabilité de demeurer. Donc, sommes-nous prêts à renoncer totalement à nos idoles pour accepter sa souveraineté, sa seigneurie dans notre vie? La conversion, le baptême, aller à l'église, ce ne sont que des étapes importantes, certes. Mais est-ce que je persiste au quotidien? Est-ce que je souhaite progresser, avancer, que mon sarment puisse porter du fruit et toujours plus de fruits? Et c'est le troisième point qu'on va voir sur la persévérance. Et on va lire les versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. On a vu la confiance dans les paroles de Jésus, l'obéissance, et maintenant on va s'intéresser quelques minutes sur la persévérance dans notre marche avec Dieu. Vous connaissez peut-être cette phrase, à nous l'obéissance, à Dieu les conséquences. Le temps présent, le temps long, l'éternité, tout ça appartient à Dieu. Mais si on demeure en Christ, il demeurera en nous. Quel privilège et quelle priorité. Un des passages préférés pour ma part dans ces versets, c'est le fait, à la fin du verset 5, que Jésus dit « Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Et je vous propose un petit test. Ces versets 7 et 8 nous montrent quatre conséquences si on est véritablement attaché au Seigneur. Et ces quatre conséquences nous rappellent que nous ne sommes en aucun cas les acteurs principaux. Nous sommes juste des bénéficiaires privilégiés par grâce. La première conséquence, au verset 6, au verset 8, on voit, c'est porter du fruit. Alors, qu'est-ce que ça signifie, porter du fruit? C'est une attitude sainte qui caractérise tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Christ et qui possèdent l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, on peut lire que le fruit de l'Esprit correspond à différents éléments. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je vous encourage dans les jours, les semaines à venir à prendre une feuille, à noter ces différents éléments du fruit de l'esprit et à vous dire, ok, où j'en suis dans l'amour? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que j'aime? Comment est-ce que je peux prier pour que Dieu m'insuffle, me donne envie d'aimer plus? Si c'est lui qui met sa sève dans mon sarment, eh ben je pourrais aimer comme Dieu me demande d'aimer. Si j'y vais par mes propres efforts, tôt ou tard, je serai déçu, dégoûté, je me sentirai trahi, triste, et des fois même j'en voudrais à Dieu, alors que c'est par ma propre volonté, mes propres efforts, que j'ai voulu faire ça. Le fruit. Vous avez peut-être entendu hier sur France Info, pour écouler leur stock de vin qui n'ont pas été vendus, beaucoup de responsables, d'œnologues et de vignerons en France vendent leur vin, alors souvent de moyenne ou de mauvaise qualité, pour faire du gel hydroalcoolique. Vous imaginez, du vin qui était destiné à boire va devenir du gel hydroalcoolique pour tuer des bactéries. On peut faire n'importe quoi avec du fruit. Tout dépend de l'autorité qui décide. Si votre cep est mauvais, vous allez terminer comme du gel hydroalcoolique, c'est-à-dire une utilité qui n'est pas du tout la utilité normale. Si Dieu est votre parfait vigneron, si Christ est le cep auquel vous restez attaché, vous allez porter du fruit et vous allez être du bon vin. Donc ça, c'est la première conséquence pour voir si on est encore attaché au vrai cep, porter du fruit. La deuxième conséquence au verset 7, on voit, c'est l'exaucement de prière. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va demander va être exaucé, mais ça veut dire qu'on sera tellement nourri du cep et de la sève de Christ, de ses paroles, qu'on aura une intimité tellement profonde avec lui, qu'en fait, toutes les prières que l'on va avoir vont être inspirées et conformes à la volonté de Dieu. Troisième conséquence, au verset 8, le Père c'est-à-dire Dieu, le parfait vigneron, sera glorifié. Posons-nous cette question. Quand est-ce que nous avons dernièrement glorifié Dieu dans notre couple, auprès de nos enfants, dans notre travail, dans nos études? Quand est-ce que nous avons dernièrement glorifié Dieu? Et quatrième conséquence, vous serez mes disciples. Un disciple fait des disciples pour obéir à son maître, Christ, le sceptre. Donc posons-nous cette question. Aujourd'hui, 7 juin 2020, je suis le disciple de qui? Alors de Christ, on est d'accord. Mais est-ce que j'ai un mentor ou quelqu'un qui va m'aider dans ma foi, avec qui je peux parler, aucun sujet tabou? Donc de qui je suis le disciple et qui ai-je pour disciple? Quel jeune homme, quelle jeune femme, plus jeune dans la foi, j'ai pris sous mon aile pour avancer avec Dieu et lui montrer que Dieu reste le parfait vigneron et que Christ est le seul cèpe qui nous donne la bonne sève. Tout à l'heure, Antoine, dans sa présidence, nous a rappelé que si on n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on va commencer à se flatter à ses propres yeux. On va se croire bon. On va se croire des fois sur le cèpe ou le cèpe à la place du sarment. On va invoquer notre propre justice, on va rester superficiel dans notre recherche de Dieu. La confiance dans la parole de Dieu va déterminer notre obéissance à cette même parole et la persévérance. Est-ce qu'on va tenir cette course jusqu'à la fin de notre vie terrestre? Et cette persévérance nous rappelle aussi un dernier aspect qu'on va avoir dans la conclusion, c'est l'espérance que nous avons. Et cette espérance, je vais vous donner une phrase d'un chrétien, Jimmy Elliot, vous connaissez sans doute cette histoire, il faisait partie de 5 missionnaires qui ont été tués par une tribu en Équateur dans les années 50. Et il avait dit quelque temps avant, « Il n'est pas si bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Il n'est pas si bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Restons attachés au vrai cèpe, au seul cèpe qui vaut la peine. Et regardons, examinons-nous dans nos vies, dans le plus profond de nous-mêmes où seul Dieu peut aller. Il connaît les cœurs pour détruire tous ces faux cèpes auxquels nous pouvons être attachés. Et pour terminer, je vais rappeler un verset que Antoine nous a lu tout à l'heure dans le psaume 36, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par la lumière, nous voyons la lumière. Je vous propose un petit temps de silence par rapport à tout ce qu'on a vu dans ce passage, et puis je terminerai par la prière d'ici 2-3 minutes. Dieu et Père, cette année, on a vu à quel point on était en guerre contre un virus. Ça nous rappelle à quel point on est en guerre aussi spirituellement parlant. On peut être en guerre contre nos pensées, contre le péché. Mais Seigneur, on veut se rappeler et proclamer ce matin que tu as tout accompli et que tu as vaincu la mort, tu es ressuscité d'entre les morts, tu vis aujourd'hui et nous pouvons avoir confiance en toi, dans ton autorité, dans ta parole. Seigneur, garde-nous proche de toi, aide-nous à demeurer en toi pour t'obéir, aide-nous à persévérer, à te glorifier, à glorifier ton Père. Et Seigneur, rappelle-nous que sans toi, on ne peut rien faire. Que dans les petites, les moyennes, les grandes choses, on puisse puiser notre force en toi et nous rappeler notre place de sarment qui ne peut rien sans le vigneron qui s'occupe de lui et sans le cèpe qui lui donne sa nourriture. Seigneur, qu'on soit dans le Nord, qu'on soit à Lyon, qu'on soit au Maroc, tu es le même, tu es fidèle, Tu veux nous visiter, tu veux nous enseigner, tu veux nous encourager. Et Seigneur, aide-nous à demeurer en toi. Et tu demeureras aussi en nous. Je te remets tout ça dans ton puissant Saint-Nom. Amen.